Vous écoutez, on lit pour vous.
Un mythe, le mâle alpha, un texte de Leo Sands du Washington Post paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir. L'observation du comportement des mâles alpha chez les singes, y compris chez certains des plus proches parents de l'homme dans le règne animal, a contribué à faire de l'archétype du mâle dominant une référence controversée de la culture moderne. Une analyse approfondie des dynamiques de pouvoir entre les primates mâles et femelles confirme toutefois que le mâle alpha est en fait relativement rare parmi 121 espèces de primates et révèle que les hiérarchies basées sur le sexe au sein de cet ordre vaste sont plus fluides et contesté plus fréquemment qu'on ne le pensait auparavant. Les auteurs de l'étude affirment que leur recherche pourrait ouvrir la voie à une meilleure compréhension de l'une des questions les plus obscures de la science, l'origine des inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes. La domination masculine n'est pas une constante, contrairement à ce qu'on a longtemps supposé en primatologie, a affirmé Élise Huchard, écologiste comportementale à l'Université de Montpellier et co-autrice de l'étude. Au cours d'un entretien téléphonique, elle a expliqué que ses travaux avaient mis en lumière une flexibilité bien plus importante qu'anticipée dans les relations de pouvoir entre primates mâles et femelles. Cette découverte remet en question la part des inégalités contemporaines entre hommes et femmes qui pourraient être attribuées à notre héritage primate. Interaction conflictuelle. L'article évalué par des pairs, publié dans Proceedings of the National Academy of Science, a examiné les données quantitatives de 253 études sur les interactions conflictuelles entre primates mâles et femelles de 121 espèces. Les interactions conflictuelles comprenaient tout, des actes d'agression physique aux signaux ritualisés indiquant la soumission. Les scientifiques ont enregistré quel sexe gagnait chaque interaction, puis ont analysé les données afin de comparer les résultats entre différentes espèces et populations de primates. Ils ont constaté que dans 70% des populations de primates observées, aucun des deux sexes n'était clairement dominant, c'est-à-dire gagnant plus de 90% des combats. Dans le même temps, les mâles étaient clairement dominants dans 17% des populations et les femelles dans 13%. Il s'agit en fait d'un beau continuum et la plupart des espèces se situent au milieu et ne sont pas strictement dominées par les mâles ou les femelles, a déclaré Mme Huchard. Le pouvoir des femelles. L'étude a révélé que le pouvoir des femelles était plus susceptible d'apparaître dans les scénarios où celles-ci ont un plus grand choix quant au partenaire avec lequel s'accoupler. Cela inclut les espèces au sein desquelles les femelles sont monogames et celles où elles sont de taille similaire à celle des mâles. Les experts ont également constaté que les espèces de primates qui se nourrissent principalement dans les arbres sont plus susceptibles d'être dominées par les femelles. C'est parce qu'il est plus facile de s'échapper, vous avez trois dimensions au lieu de deux, ce qui rend plus difficile pour les mâles d'exercer leur contrôle, a expliqué Mme Huchard. Cela vient s'ajouter à un nombre croissant de recherches sur les raisons pour lesquelles les mâles dominent certaines espèces de primates, tandis que les femelles dominent d'autres espèces. Par exemple, une étude publiée en avril a révélé que les bonobos femelles maintenaient leur pouvoir en formant des alliances pour s'unir contre les mâles. Les recherches montrent que le pouvoir des mâles n'est pas aussi omniprésent qu'on le pensait chez les primates, a déclaré Rebecca Lewis, anthropologue biologique à l'Université du Texas à Austin, qui n'a pas participé à l'étude. Cette étude s'inscrit dans un corpus croissant de publications montrant que lorsque nous considérons le pouvoir chez les animaux comme étant plus que simplement la taille ou la force, lorsque nous reconnaissons les formes économiques du pouvoir, telles que l'influence que les femelles tirent du contrôle de la reproduction, nous découvrons un paysage de pouvoir merveilleusement complexe, a-t-elle écrit dans un courriel, décrivant cette étude comme une avancée importante dans notre compréhension des pressions sélectives qui conduisent à l'inégalité entre les sexes. Différents primates. Nicholas Newton Fisher, écologiste comportementaliste spécialiste des primates à l'Université du Kent en Angleterre, qui n'a pas non plus participé à l'étude, a souligné que le terme « primate » recouvre des espèces très divergentes et que les regrouper risque de masquer les différences évolutives. Il a souligné que l'étude avait mis en évidence des différences clés entre les branches, alors que la domination stricte des mâles était plus courante chez les singes anthropoïdes et les cathariniens, singes africains et asiatiques, la domination féminine était typique des strepsiriniens, lémuriens et loris, et la domination sexuelle n'était pas clairement définie chez les platyriniens, singes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il convient de noter que ces trois branches des primates ont des histoires évolutives longues et distinctes, a-t-il écrit dans un courriel, ajoutant que les différences entre leur biologie ne sont pas surprenantes. Le terme « mâle alpha » est entré dans le vocabulaire populaire après être apparu dans un livre de 1970 sur l'écologie des loups, un terme que son auteur a par la suite qualifié d'incorrect et d'inexact en ce qui concerne cette espèce. Des recherches ultérieures sur les loups sauvages n'ont pas confirmé la hiérarchie de dominance rigide et fondée sur la force dirigée par un alpha qui avait été observé chez les loups en captivité. Néanmoins, le terme s'est glissé dans le discours culturel et même politique. Eric Trump a loué la personnalité alpha de son père, Donald Trump, et de nombreux partisans de MAGA, Make America Great Again, ont adopté ce terme pour s'identifier et exprimer leur conception de la masculinité. Selon l'écologiste comportementale Élise Huchard, les auteurs de l'article n'ont trouvé que peu de preuves pour étayer la théorie selon laquelle les inégalités entre les sexes chez les humains trouveraient leur origine chez nos cousins primates, soulignant le fait que les humains partagent des traits tels que la monogamie avec des groupes de primates qui ne présentent pas de dominance mâle claire. Cela concorde avec les résultats de diverses études anthropologiques sur les chasseurs-cueilleurs qui suggèrent que les premières sociétés humaines étaient plus égalitaires que celles d'aujourd'hui, a déclaré Mme Huchard. M. Newton Fisher a, quant à lui, mis en garde contre toute conclusion hâtive quant à la pertinence de cette étude pour les humains, soulignant que la branche des primates à laquelle appartiennent les humains, les singes anthropoïdes et les singes cathariniens, est celle qui a montré une domination mâle stricte dans l'étude. Le mâle alpha n'est en aucun cas un mythe universellement réfuté chez les primates, a déclaré Mme Huchard, mais il ne peut plus être considéré comme la norme. C'est ainsi que cela se passe dans les sociétés de babouins et que cela tend à se passer dans les sociétés de chimpanzés. Mais c'est une minorité. C'était un mythe, le mâle alpha, un texte de Leo Sands du Washington Post paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir.
Tu vas comprendre en vieillissant. Une chronique de Nicolas Vandal paru le 23 juillet 2025 dans le magazine Fugue. J'avais 23 ans. 130 livres tout mouillés et l'enthousiasme d'un chiot fraîchement sorti du placard. C'était quelques jours avant la fierté. Je prenais un verre dans un bar du village avec un gars un peu plus vieux, mi-trentaine, daddy 100% assumé. À un moment, je lui dis que j'ai hâte à la Pride. Il roule des yeux et me sort. Moi, j'aime pas ça. C'est juste des gars en bobette sur des chars. Ça représente pas la communauté. Tu vas comprendre en vieillissant. J'ai rien dit. J'ai hoché la tête comme un stagiaire trop nerveux pour défendre son point. Mais en dedans, j'étais comme « Va chier, mon grand ». Depuis quand célébrer qui on est, c'est juste un trip de jeunesse? Disons que son petit air supérieur a pas mal refroidi ma soirée. Je n'ai jamais arrêté d'y aller, même maintenant que j'ai son âge sans le look de daddy. Il y a des années où je dansais jusqu'à ne plus sentir mes jambes. D'autres où je restais en retrait, pas vraiment dans le mood. Il y a eu des marches où je brandissais une pancarte et des étés où j'y allais juste pour me sentir un peu moins seul. Même quand je savais pas trop ce que je venais y faire, j'y allais quand même. Parce que je trouve ça important d'y être, un genre de devoir de citoyen queer. L'été dernier, j'étais au Tea Dance et qui je vois dans la foule, torse nu en train de danser? Le gars du bar. J'ai ri intérieurement. Tu sais, ce petit sourire doux-amer qu'on a quand on croise quelqu'un devenu exactement ce qu'il critiquait. Mais je ne l'ai pas jugé, parce qu'à force d'y aller, j'ai compris un truc. On ne vit pas la Pride pareil chaque année. Ça dépend de l'humeur, de ce qu'on traverse, de ce qu'on vient y chercher. Militer, danser, cruiser, ou juste être entouré de gens qui comprennent. Et je vais pas faire mon hypocrite. Moi aussi, j'ai déjà levé les yeux devant les musclés en speedo, les looks flamboyants, les poppies en harnais. Je me disais, c'est too much, c'est pas nécessaire. Mais avec le temps, j'ai fini par me demander, est-ce que c'était vraiment eux que je jugeais, ou c'était moi? Incapable d'assumer autant mon corps, mes désirs, ma flamboyance. C'est facile de critiquer un gars en string rose fluo jusqu'à ce qu'on réalise qu'on l'envie un peu. Pas pour le string, mais pour cette liberté de se foutre du regard des autres. À la dernière Pride, j'ai enfin eu assez confiance pour me pointer en short blanc, trop serré pour passer inaperçu, et c'était voulu. J'avais envie qu'on me voie. C'est peut-être con, mais c'était la seule journée de l'année où j'ai osé m'habiller comme je voulais, sans me poser de questions. Si ça déstabilise certains, tant pis. On n'est pas là pour rassurer. Évidemment, il y en a pour dire que ça ne représente pas la communauté. Mais c'est qui la communauté? Celle qui sort dans le village tous les week-ends? Celle qui cache ses applis dans un dossier recette? Celle qui milite depuis les années 80? Celle qui a fait son coming out sur TikTok à 14 ans? Celle qui ne l'a jamais fait? On va se le dire, on n'est pas un groupe homogène. On n'a pas les mêmes identités, les mêmes désirs, ni les mêmes traumas. Ce qu'on a en commun, c'est surtout d'avoir été marginalisé pour ce qu'on est, chacun à notre façon. Et on voudrait que la Pride nous reflète tous parfaitement? Sérieusement? C'est comme reprocher à une fête de famille de ne pas être à l'image de chacun de ses cousins. C'est aussi un brin égocentrique de croire que notre façon d'être queer est la bonne, et celle des autres serait gênante, excessive ou ridicule. On n'est pas obligé d'aimer la Pride, mais ce n'est pas une raison pour mépriser ceux qui y trouvent quelque chose. Pour bien du monde, ce n'est pas juste un gros party queer. C'est peut-être la seule fois dans l'année où ils se sentent à leur place. Oui, il y a des gars en bobette. Puis après. Il y a aussi des jeunes trans, des familles homoparentales, des drag queens, des survivants du sida, des vieux militants, des ados non-binaires qui n'ont jamais vu autant de gens qui leur ressemblent. Tout ça ensemble. C'est pas rien. Il y a de quoi être fier. Pour revenir à mon daddy du bar, « Tu vas comprendre en vieillissant », qu'il m'avait dit. Ben justement, j'ai compris. J'ai compris qu'on ne vit pas tous la fierté de la même façon. Ce qu'on trouve exagéré, c'est peut-être juste ce dont quelqu'un d'autre avait besoin. Surtout, j'ai compris que la pride ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'elle doit être. C'était « Tu vas comprendre en vieillissant », une chronique de Nicolas Vandal parue le 23 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
L'homme qui comptait les saumons. Un texte d'Éric Pierre, Champagne, paru le 25 juin 2025 dans La Presse. Pendant 6 semaines, chaque été, Alex Cormier compte les saumons et les aide à franchir une passe migratoire sur la rivière Moisy, située au milieu de nulle part, à 100 km au nord de cette île. Depuis 5 ans, il est aussi l'un des premiers témoins du déclin du roi des poissons dans les rivières du Québec. Employé de l'Association de protection de la rivière Moisy, l'homme de 42 ans se rend chaque été, depuis 5 ans, aux chutes Katchapahoun sur la rivière Moisy, où il devient opérateur de passe migratoire pendant quelques semaines. Les seuls moyens de transport pour accéder à ce lieu reculé sont le canot, depuis Fermont, ou l'hélicoptère, à partir de cette île. C'est donc en hélicoptère qu'on le dépose près des chutes Katchapahoun, avec son équipement et des vivres pour 3 semaines, au début du mois de juillet. Un seul ravitaillement à mi-parcours lui permet de tenir 3 semaines supplémentaires avant de revenir à cette île. C'est une offre d'emploi un peu banale qui a attiré notre attention au début du mois de juin 2025. Sur la page Facebook de Canot Québec, Alex Cormier cherchait un partenaire pour l'accompagner afin d'opérer une passe migratoire sur la mythique Moisy. Son message n'avait rien d'une invitation au Club Med. Le plus difficile est de rester 1 mois dans un camp sans voir de monde, ne pas avoir beaucoup d'électricité, beaucoup de mouches, pas d'Internet, communication par téléphone satellite. Le salaire est de 200 $ par jour. Bien évidemment, logé, chacun sa chambre, et nourri. Pour quelqu'un de simple, qui aime la nature, qui veut se retirer de la société pendant 3 ou 4 semaines, c'est le paradis. L'endroit est magnifique. Alex Cormier s'attendait à recevoir tout au plus quelques candidatures. Mais plus de 70 personnes ont manifesté leur intérêt pour le poste. De moins en moins de saumons. La passe migratoire a été installée en 1973 par la société minière Iron Ore Company of Canada, raconte-t-il. L'installation permet aux saumons de poursuivre leur chemin et de remonter la rivière encore plus loin. Le travail d'Alex Cormier consiste d'abord à ouvrir les portes des différents bassins en fonction du débit de la rivière. Il compte aussi les saumons qui passent et note ses observations. Taille approximative, morsure de phoque, tache blanche, signe d'une infection, appelée saprolégniose. Depuis quelques années, dit-il, il y a des phoques à l'embouchure de la rivière, près de cette île. Il y a 2 ans, il y avait des morsures sur beaucoup de saumons. Parfois, il leur manquait des bouts d'eau. Mais ils sont faits forts et ils sont encore capables de remonter la rivière. Les informations ainsi collectées seront transmises au ministère québécois de l'Environnement qui en fera l'analyse. Ce qu'ils voient chaque jour, ce sont les signes d'un effondrement discret, mais réel. Au fil des ans, il observe de moins en moins de saumons. Depuis 2020, année où il a commencé ce travail, il a observé en moyenne 570 salmonidés par été, loin des bilans des années 1970, 80 ou 90, où l'on dénombrait en moyenne plus de 1100 poissons par saison, avec une année record de 5886 individus en 1987. En 2024, il n'en a vu que 166. Ces chiffres confirment une tendance bien documentée. Les saumons sont de moins en moins nombreux à remonter les rivières du Québec. Le ministère de l'Environnement a d'ailleurs décrété pour 2025 la remise à l'eau obligatoire des poissons capturés. Il y a aussi de moins en moins de pêcheurs, note-t-il. Alors qu'ils étaient plus de 200 à s'inscrire chaque année au tirage pour accéder aux fosses à saumon, ils n'étaient que 31 cette année. Aucun tirage n'a été nécessaire. Le bonheur, c'est vraiment relatif. À part son partenaire de travail, Alex Cormier croise peu d'humains pendant son séjour. Mais il rencontre à l'occasion des canoteurs descendant la rivière Moisy depuis Fermont. J'ai croisé des Belges, des Russes, des Américains et des Français qui avaient déjà participé aux Jeux olympiques. Ils sont aux anges. Je leur sers un verre d'eau froide qui vient d'une source provenant de la montagne. L'eau la plus pure qui soit, à 6 degrés. Ils capotent. Ils boivent en général une bière par semaine. La priorité est aux articles essentiels quand on passe 6 semaines loin de tout. Il raconte « Je me souviens de 3 chums qui descendent la rivière et qui se rendent compte que j'ai de la bière. 3 bières, c'est quand même 3 semaines de consommation d'alcool pour moi. Je leur en ai donné une bière bien froide. Ils m'ont répondu que c'était la meilleure bière de toute leur vie. Pas besoin d'avoir une PlayStation 5 ou une Ferrari pour être heureux, finalement. » Il se rappelle particulièrement un groupe de jeunes qui se sont arrêtés à son camp pour y passer la nuit. Ils étaient en train de faire la vaisselle à l'intérieur du refuge et il commençait à faire noir. Je suis entré et j'ai appuyé sur le bouton pour la lumière. Et puis là, j'ai 6 jeunes qui font « Wow! » Ces jeunes, ils ont sûrement tout dans la vie. Et ils ont été impressionnés par une lumière qui allume avec un piton. C'est vraiment une de mes histoires préférées. C'est là qu'on s'aperçoit que le bonheur, c'est vraiment relatif. C'était « L'homme qui comptait les saumons ». Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 25 juin 2025 dans La Presse.
L'esclavage au Bas-Canada. Résilience et courage déchaînés. Un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 2 juillet 2025 dans l'Express.ca. Pour replacer Montréal et le Bas-Canada dans le cadre du système international de la traite transatlantique des Africains, Ali Ndiaye, alias Webster, publie « Charlotte et la fin de l'esclavage au Québec ». L'album est basé sur un fait vécu. À la fin du 18e siècle, l'esclavage n'était pas légal au Bas-Canada, Québec, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi qui encadrait cette pratique. Il n'était donc pas illégal non plus, les gens pratiquaient l'esclavage par habitude. La Charlotte de cet album serait née en Afrique de l'Ouest vers 1762. Elle fut enlevée dès son enfance, déportée vers les Antilles anglaises, puis vers le Canada. Webster s'est inspiré de cette histoire peu connue pour concocter un récit résonnant de courage et de résilience. Un long poème. Le texte prend la forme d'un long poème dont voici un court extrait. Nous avons marché, marché sous le soleil et marché sous la lune, traversé le Sahel parmi l'acacia et les dunes. L'acacia est un arbre très répandu dans le Sahel, région africaine qui fait la transition entre le désert du Sahara au nord et la savane au sud. Acacia et Sahel sont inclus dans un glossaire d'une soixantaine de mots, tantôt moins connus d'un jeune public, tantôt carrément étrangers. On y trouve, par exemple, coris, coquillage servant de monnaie d'échange en Afrique de l'Ouest du 16e au 19e siècle, signar, femme du Sénégal mariée avec des Européens, ou astag firoula, formule musulmane signifiant « que Dieu me pardonne » en arabe. 10 000 esclaves au Canada. L'album magnifiquement illustré par Valmot permet de mieux comprendre la manière dont le Québec s'est inséré dans le réseau de la traite esclavagiste transatlantique au 18e siècle et surtout comment les personnes asservies y ont résisté. L'ombre d'un personnage révèle souvent une ambiance, une atmosphère. L'auteur clôt son récit par un court essai sur l'esclavage au Québec. On y apprend que, selon l'historien Marcel Trudel, il y aurait eu environ 4185 personnes en esclavage au Québec entre 1629 et le début des années 1800. De ce nombre, les deux tiers étaient autochtones et le tiers était africain ou afro-descendant. L'historien Brett Rochefort relate que plus de 10 000 esclaves vécurent au Canada durant le 18e siècle. Les auteurs. Webster est le pseudonyme d'Ali Ndiaye, un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il s'intéresse à la présence afro-descendante au Québec et au Canada depuis l'époque de la Nouvelle-France. L'illustratrice Valmot est native de Québec et vit à Montréal. Elle a œuvré dans le domaine du jeu vidéo où elle a développé son coup de crayon pendant 14 ans pour ensuite créer un univers bien à elle. C'était « L'esclavage au Bas-Canada, résilience et courage déchaîné », un texte de Paul-François Sylvestre paru le 2 juillet 2025 dans l'Express.ca.